j'ai discuté avec votre pasteur. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux prêcher dimanche? Et je lui ai dit, j'ai peut-être à cœur un message que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps, en plusieurs fois, sur la notion de l'aigle. Il me dit, ben, justement, j'ai parlé de l'aigle il n'y a pas longtemps à l'église et j'avais à cœur de... Ben, je lui ai dit, ben, je vais te piquer la place. Alors je ne savais pas encore si j'allais prêcher ça. En fait, c'est un message qui est en deux parties, parce que je l'ai complété, mais j'ai surtout vraiment à cœur de vous partager la dernière partie de ce message. Si vous voulez l'ensemble de ce message, on en a juste fait quelques-uns, d'en avoir à peine une dizaine, l'aigle type du croyant d'aujourd'hui. Et là, ce ne sont pas des CD audio, ce sont des DVD. Là, vous avez deux DVD à l'intérieur pour pouvoir justement aborder ce thème-là. Pourquoi ? Parce que il y a dans les caractéristiques de l'aigle une notion vraiment tellement importante qui nous correspond à chacun d'entre nous. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer d'aller un peu plus loin ensemble sur ce thème-là. Vous êtes d'accord ? Ça vous va ? De toute façon, je n'ai pas autre chose. Autrement, je vous passe un CD et je le fais en mime. C'est comme... Ça vous choque si j'enlève ma veste ? J'ai déjà pas mis de cravate parce que j'ai découvert un jour que l'onction n'était pas dans la cravate. Donc là, par contre, je commence à avoir chaud ici. Je ne sais pas s'il y a plus de chauffage sur l'estrade ou... En tout cas, il fait chaud, hein. Ça vous dérange pas ? Voilà, merci. Vous inquiétez pas, je n'enlèverai que la veste, hein. Je m'arrête là, voilà. Est-ce qu'on peut prier ensemble quelques instants, s'il vous plaît ? Dieu de grâce, nous sommes vraiment à tes pieds encore ce matin, parce que tu es ce Dieu qui nous accorde tes bontés. Seigneur, ce matin, tu connais les passages, les paroles qu'il faut apporter à ce peuple, et je te demande simplement une chose, que je puisse... diminuer maintenant pour que toi tu puisses croître, pour que toi tu puisses tout simplement te manifester. J'en appelle tout simplement à l'action puissante de ton esprit, à ton œuvre maintenant, pour que cette œuvre puisse prendre place au milieu de nous. Seigneur, sans l'action de ton esprit, je suis rien, je ne vaux rien, parce que ce restera que des paroles d'hommes. Mais lorsque ton esprit est en action, lorsque toi tu viens et que tu traverses nos vies au travers de ta parole et que c'est cette parole qui est la communiquée, alors la vie prend place. Alors ce matin, déjà dans le nom de Jésus, je prends autorité sur toutes les puissances des ténèbres qui voudraient empêcher toute l'action de ton esprit de s'accomplir dans les cœurs et dans la vie. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit mauvais, méchant, qui empêcherait que l'entendement reste ouvert, que la compréhension, que l'aspect intellectuel d'une chaque personne puisse pas recevoir ta parole. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes ces puissances de se retirer maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour que ton esprit donne de l'entendement, donne de la compréhension. Ouvre l'esprit, comme ta parole le dit, ouvre de l'intelligence. Dans le nom de Jésus, que tu puisses commencer le miracle dès maintenant, afin que ton œuvre soit tout simplement effective maintenant. Seigneur, le but de ce rassemblement ce matin, ce n'est pas de nous glorifier. Le but de ce rassemblement ce matin, c'est simplement de faire avancer ton royaume. Alors que chacun d'entre nous, nous puissions avancer dans ce que tu as promis, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. J'aimerais vous inviter à regarder avec moi ce texte de l'Écriture dans le livre de Job. Vous connaissez certainement toutes sortes de versets qui parlent de l'aigle. Je vais en citer plusieurs et je vais aller très vite sur la première partie comme je vous l'ai annoncé. Et puis je vais m'arrêter sur cette dernière partie. En introduction, simplement ce texte de Job, chapitre 39, qui nous dit « Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs ?» C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Alléluia. L'aigle a toujours été un animal fascinant pour les hommes. Hein. Vous avez remarqué, nous, vers chez nous, en Alsace, on a un endroit où ils élèvent des aigles, des faucons, et puis ils les dressent, et ils sont capables de leur faire faire toutes sortes de choses vraiment incroyables. Il y a énormément de monde chaque année qui vient pour regarder tous ces spectacles. C'est vrai que l'aigle, c'est vraiment un oiseau majestueux, c'est vraiment splendide. Il est cité, vous savez, plus de 35 fois dans la Bible. Plus de 35 fois, Dieu se réfère à l'aigle et en sort un certain nombre d'informations. Et comme toujours, vous savez, Dieu aime utiliser la nature. Hein ? Vous savez ça ? Dieu aime utiliser la nature, il aime utiliser les animaux, il aime utiliser les oiseaux. Il utilise les caractéristiques d'un animal, il utilise ses qualités, ses attitudes, ses comportements, tout simplement pour enseigner l'être humain. Alors, pour introduire ce message, je dirais tout simplement que les aigles ne désignent pas une espèce, mais ça désigne un groupe comprenant plusieurs genres. Alors, il est tout à fait possible que cet aigle cité ici soit un type particulier qu'on ne retrouve pas forcément dans nos régions. Vous avez aujourd'hui des aigles qui vivent, par exemple, en haute montagne, mais vous en avez d'autres qui vivent dans la plaine. Donc leur comportement et leur fonctionnement est juste tout simplement différent. On va s'arrêter simplement à ce que la Bible nous dit concernant l'aigle, justement. Et un des premiers points, c'est qu'il est considéré comme un animal impur. L'aigle a toujours été considéré par la parole dans Lévitique au chapitre 11, le verset 13. « Voici les oiseaux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas l'aigle. » Pourquoi impur ? Ben, tout simplement parce que l'aigle était impropre à la consommation. Ce n'est pas qu'il nous dégoûtait ou que les gens ne devaient pas respecter la nature. Bien au contraire, quand Dieu dit que c'est impropre, quand Dieu dit que c'est un animal impur, ce n'est pas qu'on doit négliger l'animal. Vous comprenez ? C'est juste qu'il est impropre à la consommation en fonction des circonstances que le peuple hébreu vivait déjà à l'époque. Il ne devait pas manger ces oiseaux. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes mangeaient déjà des cadavres. Donc, ils étaient impropres à la consommation. Et puis, on retrouve l'aigle parfois comme le symbole de Satan, qui veut dérober, par exemple, vous savez, le sacrifice qu'a fait Abraham. Vous pouvez lire Genèse 15, je ne vais pas le développer maintenant. Mais c'est un aigle qui vient à un moment donné pour dérober ce que Abraham était en train d'offrir en sacrifice. C'est quelque part l'image du mal manifesté par l'ennemi qui cherche tout simplement à atteindre d'impureté nos vies, nos cœurs. Mais ce que nous savons, c'est que Christ va changer la donne. Christ va changer cette situation. Et nous aussi, nous étions peut-être des hommes et des femmes de proie avant de connaître le Seigneur et de nous engager pleinement avec lui, n'est-ce pas ? Nous aussi, nous étions des hommes peut-être et des femmes méchantes, à abandonner justement à l'esclavage du péché, à l'impudicité, à toutes sortes de choses. Nous étions aussi impurs, indignes, jusqu'à ce que Dieu trouve une solution en Jésus-Christ et que nous l'acceptions. Et à partir de ce moment-là, notre vie a changé. Alléluia. C'est parce que nous avons été transformés, lavés dans le sang de l'agneau et que là, notre vie a commencé à prendre une différence notable qui a été comme marquée d'impur. Nous sommes devenus purs. La Bible dit des ténèbres, nous sommes passés à son admirable lumière. D'orphelins spirituels, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Privés de la bénédiction, nous avons obtenu et nous sommes co-héritiers avec Christ de son héritage. Oh, c'est juste glorieux. La Bible va même nous dire que d'infidèles, nous sommes devenus des fidèles. Alléluia. Deuxième point rapidement, je ne le développe pas plus. L'aigle, la Bible nous dit qu'il demeure dans un environnement protégé. Job, chapitre 39, verset 31. Il nous est dit, c'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Et c'est vrai que certains aigles habitent sur les hauteurs des montagnes, dans les creux des rochers. Et bien entendu, cela nous parle de protection, ça nous parle d'abri, de sécurité, ça nous parle tout simplement d'être en confiance. Et ces abris sont là, nous les connaissons et nous pouvons bien entendu faire automatiquement le rapport avec ce que l'apôtre dans l'épître aux Corinthiens va nous dire au chapitre 10 et le verset 4. Il va dire que le peuple d'Israël à l'époque, il buvait un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était, alléluia, c'était Christ. On peut faire ce rapport direct entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de ce rocher, cet aigle qui sait tout simplement s'abriter dans le creux du rocher. Et nous, on sait que notre rocher, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous traversez des tempêtes parfois ? Non, ici à Istres, il paraît qu'il n'y a jamais de tempête, il n'y a jamais de difficulté. Tout est rose, il paraît ici, hein, c'est ça, hein ? La vie des chrétiens est cool, relax, il n'y a jamais de conflit, jamais de difficulté, jamais... Non, c'est pas ça. Ah, vous êtes comme dans le reste du monde, en fait. Hein. Eh oui, on est tous, n'est-ce pas, parfois frappés par des intempéries. Et je ne parle pas forcément des intempéries extérieures, mais parfois il y a des intempéries intérieures. Il y a des choses qui se passent dans notre vie. On est comme frappé par des choses inattendues. La perte d'une personne chère, la nouvelle qu'on se retrouve au chômage, ou des problèmes familiaux, ou peut-être, je ne sais pas, la maladie qui surgit. On ne la demande pas, la maladie. Hein. À un moment donné, ça vient comme ça, ça surgit, on est juste frappé. Quand on est frappé par des moments, la Bible nous parle d'apprendre à nous cacher dans le rocher. à nous cacher en Christ, à nous réfugier en Christ. Je pourrais développer encore beaucoup plus, mais comme je vous l'ai dit, je vais avancer. La Bible nous parle également que l'aigle a besoin d'une mutation. Il y a une mutation qui est nécessaire. Certains types d'aigles, en général, une fois par an, vont perdre leurs plumes. On dit qu'ils muent, comme d'autres animaux. On retrouve cette pensée lorsque les gens de Samarie, qui à l'époque était la capitale d'Israël, entre 750 à peu près et 887 avant Jésus-Christ, et Jérusalem, qui était la capitale de Juda, ville en plein essor économique, politique, etc., vont rencontrer de sérieuses difficultés. Pourquoi ? Ben tout simplement à cause de ce qu'on appelle l'apostasie. Vous savez ce que ça veut dire, l'apostasie ? Hein ? C'est pas simplement l'abandon de la foi, c'est plus que ça. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, mais c'est surtout renoncer à l'autorité que Dieu a sur nos vies. C'est ça l'apostasie. C'est renoncer à ce que Dieu ait une autorité sur nous, à ce que les principes de Dieu aient une autorité sur nos vies. C'est renoncer à ses principes, renoncer à ses commandements, renoncer à Dieu lui-même. Et la Bible nous dit qu'à cause de cette apostasie, eh bien, était rentré dans le cœur de ces gens plein de choses. L'idolâtrie, l'injustice, l'immoralité, pour finalement sombrer sous les coups du jugement de Dieu et plonger dans un découragement incroyable. Pourquoi ? Parce que nous connaissons l'histoire, à partir de ce moment-là, eh bien, ils vont être captifs et ils vont être exclus de là où ils habitent. On retrouve ça dans Michée au chapitre 1er, le verset 16, où il est dit « Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris, rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. » Et les Hébreux, à cause de leur désobéissance et de leur volonté à s'opposer à un moment donné au principe de Dieu, eh bien, vont tout simplement en subir les conséquences. Vous savez que ce que les Hébreux ont vécu, on peut le vivre aussi, non ? Parce que nous aussi, dans notre vie d'aujourd'hui, en 2018, on peut s'opposer au principe de Dieu. On peut s'opposer encore aujourd'hui. On peut avoir un langage spirituel, on peut avoir une tenue spirituelle, on peut avoir toute l'apparence du bon chrétien du dimanche matin et être en opposition avec les principes de Dieu. Avec les principes de l'amour, avec les principes de la communion, avec les principes de la compassion, avec les principes de la miséricorde. On peut avoir tout le langage, on peut avoir tout l'aspect extérieur de la justice et de la piété. Et comme dit l'apôtre Paul, on en renie intérieurement tout ce qui en fait la force. Et malheureusement, dans nos églises, de plus en plus, nous retrouvons ce genre de symptomatique. On a aujourd'hui des églises qui deviennent des églises religieuses. On est plus attaché aux choses qu'à Jésus-Christ. Quand j'étais jeune pasteur, j'étais stagiaire, et à un moment donné, avec les jeunes, le samedi après-midi, on avait organisé une réunion un peu spéciale, les jeunes étaient là, on avait besoin de place, alors on avait poussé un petit peu tous les ustensiles, et on avait poussé la table de la Sainte-Seine. Sacrilège. Et pire que ça, j'avais eu besoin à un moment de m'asseoir, et je m'étais assis sur la table de la Sainte-Seine. Alors les jeunes, ça ne les a pas choqués. On faisait notre activité, on faisait notre réunion, etc. Mais à un moment donné, pendant la réunion, on a vu au fond une porte s'ouvrir, une tête basculer comme ça. Regardez ce qui se passait, où le pasteur stagiaire était assis, et puis refermer la porte. Oh, ce que j'ai entendu la semaine d'après. Le pasteur stagiaire était assis sur la table de la Sainte-Seine. Quel sacrilège ! Frères et sœurs, à un moment donné, il faut que nous devenions un peu plus sérieux. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans l'Église, on donne plus d'importance à des symboliques qu'à notre relation avec Jésus-Christ. Vous avez même des personnes, et ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, vous avez des personnes qui n'ont même plus de vraie relation avec Jésus. Mais il ne faut surtout pas toucher aux symboles, aux emblèmes. Vous savez, le fait de voyager un peu partout dans le monde, ça vous oblige à vous confronter à des situations. La première fois que je me suis trouvé à l'étranger, notamment dans des pays d'Afrique particulièrement pauvres, on m'a servi la Sainte-Seine dans un petit verre. J'ai dit, tiens, c'est étonnant, ils ont des petits verres. Et je prends la Sainte-Seine et je bois. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, là? Vous savez avec quoi on prend la Sainte-Seine dans certains pays? Avec du Coca-Cola. Parce que le Coca-Cola, c'est moins cher que le jus de raisin. Et puis le vin, ça n'existe pas. Sacrilège. Ces gens ne sont pas des vrais chrétiens, c'est pas possible. Dans d'autres pays, j'ai pris la Sainte-Seine avec de la grenadine. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais quel est l'important? Est-ce que l'important, c'est de savoir comment on prend la Sainte-Seine? Est-ce que l'important, c'est de savoir s'il y a des coupes ou il y a des petits verres? C'est quoi l'important? Mon frère, ma sœur, ce qui est important, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Et si on est capable de se diviser, si on est capable de quitter une église tout simplement parce qu'on ne prend pas des emblèmes tels que nous, on pense que c'est comme ça qu'il faudrait le faire, c'est qu'on a un problème dans le cœur. On a un vrai problème. Jésus lui-même, il est venu pour apporter la révolution. Jésus lui-même, quand il a commencé à manifester son ministère, à qui s'est-il opposé? Aux démons? Pas du tout. Il avait toute autorité sur la puissance des ténèbres. Est-ce que c'est la maladie qui s'est opposée à Jésus-Christ? Pas du tout, puisqu'il avait toute autorité sur la maladie. Contre qui il s'est opposé? Les gens religieux de l'époque. Ces hommes qui étaient là et qui avaient depuis des années des formulations dans la tête, ils avaient des pratiques, ils avaient des coutumes, ils avaient Moïse comme loi. Et ils se permettaient même de dire à Jésus, c'est pas comme ça que tu dois faire. Parce que voilà Moïse ce qu'il nous a dicté. Jésus est venu en apportant une vraie révolution, en leur expliquant quoi? Que ce qui était important maintenant, ce n'était pas les emblèmes, ce n'était pas les symboles. Ce qui était important, c'était la relation qu'ils devaient maintenant développer, créer avec le Fils de Dieu qui était venu sur terre. Pourquoi on a du mal à comprendre ça? C'est un petit peu ce que je disais hier, parce que nous, on a confondu certaines choses. On est devenus parfois des catholiques. On critique les catholiques, mais on agit de la même manière. On critique les protestants, mais on fait exactement comme eux. On a le même comportement parfois. Pourquoi? Parce que hier, j'expliquais tout simplement que dans notre fonctionnement, on laisse cet esprit de religiosité prendre de plus en plus place dans notre cœur. On le laisse s'infiltrer au fond de nous-mêmes. Les choses extérieures ont plus d'importance. On confond, quand on parle que Dieu est notre priorité, on confond Dieu et ce que nous faisons pour Dieu. J'ai expliqué cela quand j'ai dit hier à un moment donné que mon ministère a changé à partir du moment où j'ai compris cette subtilité. Quand je suis rentré dans le ministère, on m'a dit, mon frère, maintenant, ta priorité, c'est Jésus. Ok, super. Bien sûr que j'avais compris cela, que ma priorité, c'était Jésus. Sous-entendu, l'Église et tout ce que tu dois faire dans l'Église. Donc, en fait, ma priorité, c'était Dieu et les chrétiens, l'Église. Et ensuite venait ma famille, etc. Et je me suis rendu compte que ça, ce n'était pas l'ordre divin. Parce que pendant plusieurs années, j'ai vécu comme cela, jusqu'à arriver à un burn-out, à une situation de dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un vrai problème. L'ordre n'est pas celui que la parole de Dieu enseigne. Donc on a repris l'écriture, on a de nouveau été un peu plus loin dans cette profondeur en disant, mais Seigneur, c'est quoi les priorités que tu donnes? Et là, le Seigneur a commencé à éclairer mon cœur en me disant, mais ce que je te demande, c'est pas de servir. Nous, aujourd'hui, dans l'Église, le faire est beaucoup plus important que l'être. Est-ce que je peux vous dire, sans vous choquer ce matin, que le faire, F-A-I-R-E, Dieu n'en a rien à faire? Tout ce que nous pouvons accomplir pour lui, il n'en a strictement rien à faire. Pour nous, c'est devenu une importance capitale. Je disais hier que parfois même, on pense que sans nous, l'Église ne pourrait pas fonctionner. Mais Dieu se moque de ce que nous pouvons faire. Pourquoi? Parce qu'il a mille et un moyens pour nous remplacer. Qu'est-ce qui importe Dieu? Pas ce que nous faisons, ce que nous sommes. C'est ça qui est important. Parce que ce que nous sommes va définir ensuite ce que nous faisons. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire. Je suis juste en train de dire qu'il y a une manière différente de faire. Et nous, très souvent, on nous a demandé de faire parce que c'était une obligation. On nous a demandé de faire parce que c'était Dieu qui le voulait. On nous a demandé de faire parce que si on ne faisait pas, on était des mauvais chrétiens. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se sont concentrés sur comment faire et qui ont totalement délaissé comment être pour faire. Et ce que Dieu veut nous rappeler aujourd'hui à son Église avant que Jésus revienne, c'est que ça doit changer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a trop de chrétiens dans nos églises qui risquent de ne pas partir. Parce qu'on est tombé dans l'activisme. Parce qu'on est tombé dans le faire. Et on a oublié de comprendre que le Seigneur attendait une chose essentielle, c'est de restaurer notre relation avec lui. Une vraie relation avec lui. C'est-à-dire de laisser notre cœur être façonné, de laisser notre cœur être transformé, de laisser notre cœur être changé. Ça, c'est plus difficile, parce que ça implique une décision. Ça implique un choix. Ce que je suis en train de vous prêcher, je l'ai vécu. Le Seigneur m'a un jour amené jusqu'au pied du mur. J'étais juste là, à la limite. Un jour, quelqu'un m'a dit, si le Seigneur t'enlevait, on était en période de crise justement, j'expliquais ça pour ceux qui étaient au séminaire, on était en période de crise, ça n'allait pas, et je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait pas. Et je m'en prenais presque à Dieu. Parce que je disais, Seigneur, mais je te sers. Je passe des jours, des nuits à préparer des messages, à faire des visites, à faire ceci, à faire cela, etc. Et pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ça ne va pas dans mon couple ? Pourquoi ça ne va pas dans ma famille ? Pourquoi il y a toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes ? Un jour, quelqu'un m'a dit, si Dieu t'enlevait maintenant tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Alors, j'étais, c'est vrai, à l'époque, pasteur d'une église, président de la sentinelle de prière, président de l'action sociale, et puis d'autres activités. On avait le Kids Eating Academy, on avait tout cela. Il m'a dit, si Dieu te retirait ton ministère, si Dieu t'enlevait la sentinelle de prière, si tu n'étais plus responsable de l'activité sociale, si tu n'étais plus responsable de ces activités de colo que tu fais avec ton épouse, etc. Il m'a dit, qui serais-tu ? Alors, la première réaction, vous savez, d'un homme hein, simple comme moi et rempli d'un peu d'orgueil, ça a été de hausser les épaules en disant, mais Dieu a besoin de nous et il ne nous enlèvera jamais rien. Et puis, comme on était resté plusieurs jours chez ce couple, les jours qu'on suivit, ça m'a travaillé. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais si Dieu m'enlevait vraiment mon ministère, qui je suis ? Si Dieu m'enlève la sentinelle au travers de ce que j'accomplis, qui je suis ? S'il enlève tout ce dont, ces choses auxquelles je suis attaché aujourd'hui, qui je suis ? Et je me suis rendu compte d'une chose, vous savez quoi ? Je vous parle avec vérité ce matin, vous êtes d'accord ? Je ne suis pas là pour vous dire on est les pasteurs, on est les meilleurs. Ça, c'était il y a 30 ans qu'on prêchait ça. Il y a longtemps qu'on a compris que ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est meilleur que les autres. On est des hommes et des femmes. Hello ? On est des hommes et des femmes. On a aussi nos combats et nos luttes. Oui, Dieu nous a donné un ministère. Et nous devrons rendre compte à Dieu de ce que Dieu nous a donné. Mais on a aussi nos combats et nos luttes. C'est pour ça que vous devez prier pour nous. Je disais, c'est pour ça que vous devez prier pour nous. Je disais, c'est pour ça que vous devez prier pour nous. Eh oui, parce que nous serons jugés plus sévèrement que vous à cause des paroles que nous proférons et de l'enseignement que nous apportons. Alors j'ai commencé à réaliser que si Dieu m'enlevait tout ça, en vérité, j'étais plus rien. Pourquoi ? Parce que j'étais ce que j'étais au travers de ce que je faisais. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et c'est là que Jésus est rentré en action. Et c'est là que Jésus a commencé à me dire, tu vois, si tu n'as plus rien sur cette terre, tu n'es plus rien. Or, moi, je te propose que même si tu n'as plus rien, tu peux être tout si tu commences, toi, à devenir en moi. J'ai dit, comment ? Il me dit, oui, il faut que tu apprennes à délaisser tout ce qu'il y a là dans ce monde et à mettre ton espérance, ta confiance en moi et uniquement en moi. Je suis ce que tu es, je suis ce que tu as besoin, je suis ce que tu as besoin d'accomplir. Et c'est là que j'ai commencé à changer mon identité. Mon identité n'était plus ce que j'étais en train d'accomplir. Mon identité, je l'ai travaillé à ce que mon identité soit en Jésus-Christ. Et j'en suis arrivé, et nous l'avons fait il n'y a pas très longtemps, à nous détacher complètement. Et combien de fois je dis, si la sentinelle, le Seigneur veut nous l'enlever, c'est pas un problème, si tu as quelqu'un d'autre pour le faire, fais-le. Nous avons quitté Andrézieux il n'y a pas très longtemps parce qu'on nous a demandé de reprendre une église donc sur Mulhouse, il y a un peu plus de 2 ans de cela. on a laissé une association avec une action sociale, il y avait un restaurant humanitaire, une boutique humanitaire, on avait du développement d'aide à la personne, on avait également de la distribution d'aide alimentaire toutes les semaines, on avait toutes sortes de choses, on avait plus d'une soixantaine de bénévoles qui étaient impliqués. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a remplacé, je lui ai tout laissé, avec les comptes bancaires, avec tout ce qu'il y avait. Ce n'était pas un problème pour nous. On a laissé l'église, l'association, tout ce qui concernait le KTA, tout ce qui concernait l'activité des colos, etc. À un moment donné, on a juste compris que c'était le temps, ça devait se terminer. Il fallait passer la main. On a lâché. Je tourne dans plein de pays. Il y a des pasteurs qui ne me comprenaient pas. Il y a des ministères qui disent mais comment ça se fait que tu as lâché tout ça, comment ça, et tu repars à zéro. Je vais vous dire, ça reste entre nous. Hein. Je suis arrivé pour la première fois de ma vie dans une église déficitaire. Je n'avais jamais vu ça. Une église qui n'avait plus de ressources, plus de réserves, plus de finances. On m'a dit, il faut que tu prennes cette église. Ah. Et donc, on n'aura peut-être pas de salaire au début, il n'y aura peut-être pas de voiture, il n'y aura pas. Non, il y aura peut-être, mais ce n'est pas sûr. Ben avec ma femme, on a relevé le défi. On a dit, ok, ben on y va. Parce qu'on est jeune. Ah oui, on est... Ça vous... Quoi ? C'est quoi le problème ? Bien sûr qu'on est jeune. Ben oui, on est jeune. Allez, on s'est dit, allez, c'est là la jeunesse, on y va, on prend cette église et puis la grâce de Dieu va nous accompagner. Vous savez, si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, il faut faire des choses nouvelles avec lui. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu agir ? Ben tout simplement parce qu'ils font la même chose depuis 30 ans. Quand tu fais la même chose depuis 30 ans, tu ne vois pas la manifestation de Dieu agir plus que de ce qui a été fait il y a 30 ans en arrière. Mais quand on commence à prendre de nouveaux choix avec Dieu, quand on prend de nouvelles destinations, quand on commence à prendre de nouvelles décisions, quand on relève de nouveaux défis avec Jésus, on commence à voir des choses nouvelles. Pourquoi je continue à voyager ? Pourquoi je continue à obéir à Dieu ? Parce que je sais que même si je suis fatigué, même si j'en ai des fois assez, toutes ces expériences, toutes ces choses où Dieu m'amène, je vais vivre quelque chose d'étonnant. Que si j'étais resté dans mon salon devant ma télévision, je ne les vivrais pas. Vous me suivez ? Il n'y a pas plus logique que cela. Dieu s'intéresse à notre être intérieur. Parfois, oui, il y a des tourmentes. Parfois, il y a des moments difficiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de se cacher dans le creux du rocher. Comme l'aigle, parfois, on perd des plumes. Vous connaissez cette expression, hein ? J'y ai laissé des plumes. Hein ? Nous aussi, parfois, on y laisse des plumes. On est découragé, on est fatigué, on est épuisé. Mais la réalité, c'est que dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, il nous a dit, prenez courage. Il nous a dit, ne vous laissez pas asservir. Il nous a dit, affermissez-vous, fortifiez-vous, etc. Et c'est ce que nous voulons faire, alléluia. Vous savez, comme l'aigle, lorsque c'est le seul oiseau qui a cette capacité de traverser une tempête et d'aller percevoir ensuite au-delà des nuages. Je vous ai dit souvent, je prends l'avion, je suis tellement étonné. Parfois, je me suis retrouvé bloqué sur un aéroport parce que la température, parce que le temps était mauvais, parce qu'il y avait trop de vent, etc. Et au moment donné, quand finalement, au bout de peut-être une demi-heure, une heure ou deux heures, on nous a autorisé à décoller, c'est toujours incompréhensible. C'est que quand l'avion a des turbulences et puis qu'à un moment donné, il va traverser toute cette tempête, au-dessus, il n'y a plus de tempête. Vous avez juste une mer de nuages qui est incroyable, qui est gris, blanc ou en fonction du temps qui passe. Mais au-dessus, vous avez un soleil magnifique. Je dis, mais pourquoi on n'a pas décollé plus tôt ? Et l'aigle a cette capacité-là, vous voyez, de pouvoir traverser la tempête. Nous, en Jésus, on peut traverser la tempête. Alléluia. Même si on a des épreuves, même si on a des moments difficiles ou compliqués, est-ce que tu peux comprendre ce matin que tes épreuves ne sont pas faites pour que tu y meures ? Les épreuves de la vie, les vicissitudes de la vie, les difficultés, tout ce que nous pouvons traverser, elles n'ont pas été faites pour que nous puissions y mourir. Les épreuves ne sont conçues que pour qu'on puisse les traverser. Alléluia. C'est pas normal qu'en tant que croyants, nous restions dans notre épreuve. Quelle qu'elle soit, que ce soit une épreuve de maladie, on peut vous en parler avec mon épouse, ou que ce soit des épreuves parce qu'il y a de l'opposition, il y a des combats spirituels, l'épreuve n'est pas là pour qu'on y reste, l'épreuve est là pour qu'on la traverse. Et qu'on devienne victorieux. Et la notion de victorieux, c'est pas forcément de remporter la victoire sur l'épreuve. Lisez Hébreux 11. Tous ces gens qui sont morts sans avoir vu la puissance de Dieu se manifester. Mais regardez la récompense qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont remporté comme victoire au travers de l'épreuve ? Ils ont supporté l'épreuve, ils ont traversé l'épreuve. Parfois, ils sont morts, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont jamais baissé les bras. Ils sont restés debout, ils ont continué à avancer. Alléluia. Et nous sommes, frères et sœurs, appelés à avancer, à continuer à avancer. Rapidement, je continue parce que j'ai encore plus que 2h30 de message. L'aigle est un visionnaire extraordinaire. Vous avez remarqué ? La Bible nous dit dans Job 39, il est sur la cime des rochers, il est sur le sommet des monts et de là il épie sa proie et il plonge au loin ses regards. Je fais court sur ce point-là, mais la réalité c'est que nous savons que l'aigle a une vision exceptionnelle, ce qui parfois nous dans l'église nous manque terriblement. Il y a tellement d'églises qui n'ont pas de vision. Alors, quand je parle de vision, je ne parle pas de rêves bizarres qu'on reçoit une nuit, etc. C'est pas ça, je ne parle pas de ces visions-là bizarres, étonnantes. Non, je parle pour moi, une vision, ce sont des objectifs précis, des buts à atteindre, en fonction de notre société, en fonction de l'année dans laquelle on vit, en fonction des gens qui sont autour de nous, la population. C'est juste avoir tout simplement cette compréhension des choses de Dieu en disant, toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Et est-ce que vous posez régulièrement la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à Istres ? Parce que vous savez, parfois, en tant que chrétien d'église et même en tant que pasteur, nous sommes là et nous disons, mais non, mais depuis 50 ans, on est là, depuis 40 ans, depuis 30 ans, on fait toujours la même chose. Mais pour moi, c'est ça la définition, je disais hier, de la folie évangélique. On dit, mais il n'y a pas vraiment de croissance, on ne gagne pas suffisamment d'âmes, on ne voit pas. Mais oui, mais si on fait toujours la même chose de la même manière, on aura toujours les mêmes résultats. Nous devons aujourd'hui considérer qu'on est en 2018, on ne travaille pas comme il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Souvent, je discute de ça avec mon beau-père. Certains le connaissent, hein, le pasteur Maurice Poncet. Vous connaissez le pasteur Maurice Poncet ? Très souvent, je discute avec lui, justement, et il me dit, Emmanuel, c'est certain, aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas travailler comme on faisait il y a 50 ans ou 60 ans en arrière. Il faut adapter nos méthodes. Alors je sais que souvent, le mot méthode, c'est quelque chose... Oh, il n'y a pas de méthode. Mais si, il y a des méthodes, bien sûr. Tout a une méthodologie. Même Dieu a des méthodes. Il a créé l'univers avec des méthodes. Il a hiérarchisé le monde avec des méthodes tellement précises. D'ailleurs, ces méthodes, elles sont là encore pour nous aujourd'hui. Il y a la loi de la gravité. C'est une méthodologie que Dieu a mis en place. Ignorez la loi de la gravité, il va vous arriver des problèmes. Ben oui. Montez sur un immeuble, quel qu'il soit, vous dites « Non, non, mais moi, la loi de la gravité, j'y crois pas. » Et sautez. Ben, la loi de la gravité va très rapidement vous rattraper. Et vous restez d'avoir un sacré nombre de dommages, voyez. Dieu est un Dieu intelligent, il fait les choses de manière méthodique. Il travaille avec ordre. Avec Dieu, il n'y a rien qui est défini au hasard. Et l'aigle, comme ça, la Bible nous dit, il repère, il visionne sa proie, il définit son objectif et il attaque. Et ben de la même manière, nous devons définir nos objectifs aujourd'hui. Dans chacune de nos villes, chacune de nos églises. Seigneur, pourquoi tu nous as mis ici ? C'est quoi l'objectif de notre église aujourd'hui ? Qu'est-ce que toi, tu as comme projet ? Nous, on fait des choses depuis des années, mais est-ce que toi, tu as peut-être une autre idée aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que les gens autour de nous ont changé, parce que la population a changé, parce que la mentalité, la culture, les traditions ont changé. Comment tu vois les choses, Seigneur, toi, aujourd'hui ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer la parole. La parole ne change pas, elle est universelle. Mais la parole s'adapte à toutes les circonstances et les situations. Et là, vous commencez à vivre des choses vraiment extraordinaires. Allez chercher la vision que Dieu a pour votre Église. Ne copiez pas ce qui se fait ici ou là, ça n'a pas d'importance. Mais vous, avec votre pasteur, soyez un, unis, et cherchez la vision, cherchez les objectifs, cherchez les buts à atteindre. Pour quelle raison ? Pour faire grandir le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça la seule et unique raison. Nous, on a posé un certain nombre de questions quand on est arrivé sur cette ville de Mulhouse et dans cette église, après avoir pris contact. Rapidement, je vais vous poser des questions. Vous voyez, pourquoi l'église existe-t-elle ? Puis j'ai demandé aux gens de répondre, vous voyez, on a commencé. Pourquoi l'église existe-t-elle ? La deuxième question qu'on a posée, c'est que sommes-nous et qui sommes-nous en tant qu'église ? Et on a simplement laissé les gens dans le projet M2, la vision M2 justement, eh bien se développer au travers. Troisième question, que devons-nous faire ici dans cette église ? Et laisser tout simplement les gens pouvoir s'exprimer. Comment pouvons-nous le faire ? Et de là, il y a 5 mots qui sont sortis, que nous trouvons dans Acte 2, qui sont tout simplement la vision de l'église primitive. Et ces 5 mots que nous retrouvons, c'est l'écran suivant. On retrouve les cinq piliers de chacune de nos églises, qui devraient être adoration, connexion les uns avec les autres au niveau de l'extérieur, au niveau de l'intérieur, on parle de communion fraternelle, évangélisation extérieure, croissance de l'église, on parle de formation, de maturité, etc., service, ministère, etc. Il me semble que quand vous étudiez Actes de 2, c'est juste les piliers de l'église primitive. On a un livre, je ne sais pas si on l'a amené ici, Une église renouvelée par l'esprit. Je cherche ma femme, je ne sais pas où elle est. Ah, on l'a pas ce livre, hein ? Non, on l'a pas. Mais vous pouvez le trouver sur notre site internet. Une église renouvelée par l'esprit selon Actes 2. Ça renouvelle nos églises. Ça renouvelle nos vies. Alléluia. En parlant de renouvellement, j'en arrive à mon cinquième point. Et en fait, c'est là que le message commence. Dans le psaume 103, verset 5, la Bible dit « C'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Je connais beaucoup de cheveux blancs qui citent ce passage, n'est-ce pas ? Moi, je ne le cite pas encore, même si je suis grand-père depuis quelques semaines. Mais bon, je disais pas « Amen, moi », mais bon, la venue d'un bébé, oui, il n'y a pas de problème. Mais qui m'ont dit que j'étais grand-père, je n'ai pas compris. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, Dieu rassasie de bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'aigle, etc. etc. Et alors, il semble que chaque année, l'aigle rajeunit. Mais c'est vrai que comme d'autres animaux, je l'ai dit tout à l'heure, les aigles muent et ses plumes changent, son bec, ses griffes se régénèrent s'il y a un besoin. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de lifting, mais en fin de compte, l'aigle était déjà un des précurseurs. Vous voyez, il avait déjà inventé des choses à ce niveau-là. La Bible nous dit qu'avec l'âge, nous sommes appelés, nous aussi, comme le bon vin, à nous bonifier. Il y a du bon vin dans la région un peu, là ? Attends, on vient d'Alsace, alors attention. C'est... Avant, on était dans le Rhône-Alpes, alors on avait aussi du Côte-du-Rhône et tout ça. Mais la Bible nous dit que nous sommes appelés à nous bonifier, vous voyez, avec l'âge. Est-ce que vous vous bonifiez avec l'âge ? Pas beaucoup d'amen quand même. Hein ? Ou est-ce que vous devenez de plus en plus bourru ? Fatigant, aigri, insociable. Quelle est l'option que vous avez prise ? La une. Bon, parce que c'est un choix en fait. Hein. Et c'est vrai que nous voyons aujourd'hui deux catégories de personnes qui vieillissent. Hein. Vous avez des personnes qui, avec le temps, deviennent plus douces, plus agréables, plus compréhensibles. Mais la vérité, c'est que parfois, on voit aussi d'autres personnes qui, avec le temps, se laissent envahir par l'amertume. Ils se laissent envahir par les regrets. Les remords. Et parfois, ça domine tellement leurs pensées, leur cœur, qu'ils finissent par être invivables. Ils génèrent toutes sortes de colères. Des histoires racontent que chez certains aigles, en prenant de l'âge, leur bec finit par se fermer. Ou en tout cas, ils ne peuvent plus l'ouvrir entièrement pour pouvoir se nourrir. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes sortes de pousses disperses qui prennent place. Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui laisserait constamment ses ongles pousser et qui les couperait jamais. C'est un peu comme les chevaux, vous voyez ? Si les sabots ne sont pas entretenus, un cheval, à un moment donné, eh bien, il va juste être handicapé. Il ne pourra plus trotter, galoper, parce que les sabots n'auront pas été entretenus correctement. Et la Bible nous parle de cette notion également. Et l'aigle est obligé, à un moment donné, d'aller comme se frotter contre un rocher pour casser toutes ces aspérités qui l'empêchent d'ouvrir son bec correctement et de retrouver une parfaite mobilité. Ça me donne, au travers de cette image, l'image de l'Église en général est qui, avec le temps qui passe, mais aussi de nos vies chrétiennes en particulier, qui, si on ne veille pas, on finit parfois, avec les années, excusez-moi l'expression, à nous encroûter. On s'encroûte dans une forme de routine, d'habitude. Nos combats, nos souffrances, nos blessures, nos colères nous amènent tout simplement à perdre ce feu du premier amour, comme on dit parfois, n'est-ce pas ? À perdre ce feu, à perdre ce zèle, cette motivation que nous avions au début. Notre bec, ben, il aura tendance à se fermer pour la proclamation de l'Évangile, pour le témoignage personnel, pour inviter nos amis, pour répandre tout simplement des grâces. Malheureusement, il continuera à être ouvert. Pas ici à Istres, je sais. Mais il aura parfois tendance à s'ouvrir pour répandre un peu d'aigreur, un peu d'amertume, à cause de l'effet de la blessure et de la colère qui est irrésolue encore dans les cœurs. Combien sont ceux qui ne rajeunissent pas comme l'aigle, mais qui malheureusement, au contraire, s'endurcissent, deviennent difficiles à vivre parce qu'il y a justement dans leur cœur de la colère qu'ils essaient de cacher, ou qu'ils essaient de dominer d'une manière ou d'une autre, de toutes sortes de raisons. Un jour, quelqu'un a dit « Si vous ne vous occupez pas de votre colère, c'est elle qui va s'occuper de vous. » Réfléchissez un instant là-dessus. Si vous ne vous occupez pas de votre colère, c'est elle qui va s'occuper de vous. Nous pouvons être en colère pour toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de situations, malheureusement, que nous avons pu subir dans notre enfance, étant adolescent, étant jeune ou autre, qui a généré de la souffrance. Des violences physiques, de toutes sortes de diverses maltraitances, des abus sexuels, des violences verbales, de la négligence, de la peur, toutes sortes de douleurs émotionnelles ou physiques. Nous sommes parfois dans cette situation, il y a toutes sortes de colères parce que nous sommes peut-être les enfants du divorce. Et nous avons vécu des choses qui nous ont fait du mal. Nous avons pu, par exemple, vivre aussi dans un cercle familial d'intimidation. Parce que le père ou la mère avait une autorité, au-delà de son autorité, c'était de l'autoritarisme. Et ça a généré toutes sortes de souffrances. Nous sommes peut-être en colère et nous avons peut-être des souffrances parce que nous n'avons pas vraiment eu de père. Un exemple du père ou un exemple d'une mère. J'ai fait une conférence sur ce thème-là, « Un père, c'est quoi ?» Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup de jeunes hommes, ils ne savent pas ce que c'est que d'être père. Parce qu'ils n'ont pas eu d'exemple à la maison. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est juste un fait. Et on s'est dit, mais reprenons la parole de Dieu. Et je m'arrête là parce que malheureusement, il y a tellement de sources de souffrance aujourd'hui, c'est tellement inépuisable. Écoutez-moi ce matin. Si nous ne prenons pas en considération toutes ces souffrances, elles finiront par vous détruire. Non simplement elles finiront par vous détruire parce qu'elles produisent de la colère. Une colère qui parfois va s'exprimer, ou une colère parfois qui va être tellement sournoise. Mais cette souffrance qui génère de la colère avec le temps, elle vous empêche de vous bonifier comme le vin. Elle vous empêche de vous améliorer. Je prends souvent l'exemple du placard. Je prends cet exemple, vous voyez, de quelqu'un qui va faire ses courses dans une grande surface, peu importe où. Alors il achète des produits alimentaires, des fruits, des légumes, du fromage, du beurre, du lait, etc. Et puis des produits d'entretien, toutes sortes de choses. Et quand il rentre à la maison, il va tout ranger dans le placard de la chambre. À votre avis, même si ce placard est bien fermé, qu'est-ce qui se passe au bout de quelque temps? Ça va commencer à sentir un peu mauvais, hein? Alors, il va ouvrir le placard et puis, comme ça sent un peu mauvais, alors il va prendre une bombe qui désodorise. Et puis, il va commencer à désodoriser un peu partout, voyez. Oh, c'est vrai que peut-être la première heure, la bombe va faire son effet. Et puis, dans la pièce, il va sentir peut-être une odeur un peu différente. Mais vous et moi, on sait très bien que très rapidement, si les jours passent, vous aurez beau mettre toutes les bombes que vous voulez qui désodorisent, vous aurez beau mettre tous les parfums que vous voulez, vous aurez beau refaire la tapisserie, refaire la peinture, à un moment donné, cette mauvaise odeur, non simplement elle va sortir du placard, non simplement elle va envahir toute la chambre, mais également elle risque d'envahir toute la maison. Quelle est la solution? Videz le placard. Nettoyez, désinfectez le placard à fond. Enlevez toutes ces choses, excusez-moi, qui puent et qui génère toutes sortes de choses dans cette maison. Eh bien, vous voyez, lorsque les souffrances nous ont atteints, et que la colère sournoise parfois attend régulièrement l'instant propice pour éclater, si vous ne vous en occupez pas, on est comme ce placard. Et il commence à y avoir toutes sortes de mauvaises odeurs qui commencent à sortir de notre vie. On essaye de cacher ces choses, mais la réalité, c'est qu'elles sont là, elles sont présentes. Nous avons besoin de nettoyer le placard de notre vie avec l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit est là pour purifier le placard de notre vie. Si nous ne réglons pas les problèmes de notre colère, c'est elle qui va gérer notre vie. Et nous allons tout simplement nous battre avec elle, essayer de la canaliser, de la réfréner en dépensant toutes sortes d'énergie émotionnelle. C'est la raison pour laquelle certains finissent par être épuisés. Ils n'en peuvent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils dépensent chaque jour tellement d'énergie pour être une autre personne. Parce qu'ils savent qu'il y a la souffrance, ils savent qu'il y a la colère, ils savent qu'il y a tellement de choses dans leur vie. Alors, pour arriver à se contrôler, ils dépensent tellement d'énergie. Et qu'à un moment donné, on est tous pareils, les batteries sont à plat. Et on est juste épuisés. Si nous ignorons nos souffrances, et si nous ignorons nos colères, alors elles vont avoir des conséquences directes et indirectes dans notre vie. Et il existe toutes sortes de manières de les ignorer. Ce dont je parle, je l'ai vécu. Moi, j'ai eu un papa qui, quand vous le voyez, je disais, on était sur les marchés, mais sur les marchés, mon papa, il n'était jamais en colère. Tout le monde l'aimait. Tout le monde l'appréciait. C'était un gars doux, intelligent, agréable. Tout le monde parlait de papa du Vieux-Art. Quand il est décédé, je me souviens, pendant plus d'une semaine, ils ont interdit à ce que qui que ce soit se mette à sa place. Juste pour montrer le deuil, le départ de cet homme-là. Des centaines de personnes à l'enterrement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon papa était un faux calme. Et qu'à la maison, on a failli passer plusieurs fois. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon papa avait tellement souffert. Et moi, je ne savais pas quand il était enfant. Il avait tellement souffert. Je ne comprenais pas pourquoi il se mettait en colère à la maison. Mais pas la colère où à un moment donné, on est agacé contre un gamin ou contre une situation, on a, excusez-moi, un coup de gueule. Non, des colères qu'il ne maîtrisait plus. Combien de fois je me suis retrouvé dans l'angle du lave-vaisselle, ma mère devant pour me protéger. Combien de fois ? Combien de fois avoir des meubles cassés ou des objets volés ? Tout simplement parce que nous on rigolait, on plaisantait, on s'amusait, mon papa réagissait jamais. Jusqu'au moment où la coupe était pour lui pleine. Et alors là, c'était un excès de rage. On aurait pu mourir 1000 fois. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas toutes ces colères, je ne comprenais pas toutes ces souffrances. C'est plus tard que j'ai compris. C'est plus tard que j'ai compris que ça ne l'excusait pas. Il n'avait pas toutes ses études à l'époque. Il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de pasteur qui était formé dans toutes ces choses en relation d'aide pour comprendre comment guérir de ces choses-là. Mais mon papa, avant de connaître ma maman, il était déjà marié. Et quelque temps avant, il avait perdu sa femme d'une leucémie. Il avait 3 enfants en bas âge. Il était chrétien. Ses parents s'étaient convertis. Ils allaient à l'église. Et vous voyez, on était dans cette époque où quand on se convertissait, eh bien, il n'y avait plus de loisirs, il n'y avait plus d'amis, il n'y avait plus personne. Le seul objectif, c'était l'église. Alors lui, il n'avait pas compris au départ. Il a été coupé de tout de jour au lendemain parce que ma grand-mère a été guérie d'un cancer, à une tumeur cancéreuse au pied. Elle avait une tumeur cancéreuse et puis la sœur qui est venue la voir et lui rendre visite, on lui a dit, il y a une telle personne qui est malade, est-ce que tu peux aller la voir ? Donc c'était ma grand-mère et quand elle a discuté avec elle, elle a parlé de la foi, elle a parlé de Jésus, c'était des catholiques, mais ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu. Elle a dit, vous avez une tumeur au pied ? Alors elle était toute bandée, etc. Elle a dit oui, elle a dit, je peux voir ? Alors elle a pris son pied, elle a commencé à débander, à enlever tout ce qui était là. Et puis une fois qu'elle a tout enlevé, il y avait comme un trou purulent avec cette tumeur à l'intérieur. Ma grand-mère était adepte du tricot. Alors la sœur qui était là, qui est venue la voir, elle a pris les aiguilles qui étaient sur la table. Elle a dit, mettez votre pied sur la chaise, elle a mis le pied sur... Je ne sais pas si on ferait ça aujourd'hui. Écoutez bien, c'est une histoire vraie que je crois que ce n'est pas une blague, hein. Elle a pris les aiguilles à tricoter, elle l'a enfoncée dans le pied, elle a enlevé la tumeur, instantanément la plaie s'est refermée. Guérie miraculeusement comme ça, ma grand-mère a donné sa vie à Jésus-Christ. Mon grand-père, qui était un jazzman, est allé à l'église et il a joué du piano toute sa vie. On louait en faisant du jazz, pas tout à fait quand même à l'époque, c'était pas tout à fait comme ça. On aurait voulu peut-être, mais c'était pas comme ça. Mais voyez la mentalité de l'époque, mon père a été extrait du jour au lendemain, voyez, il avait des amis, il faisait du tennis, etc. On lui a dit non, maintenant c'est fini, la seule chose qui compte c'est l'église. tous les dimanches, il n'y avait plus rien, c'était que l'église. Alors il s'est marié à l'église et puis il a eu sa femme et sa femme est décédée quelque temps plus tard. Un dimanche matin, quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard, il est dans sa voiture, c'est un dimanche matin, il descend à l'église, il y avait 35 km pour aller à l'église, donc il prend sa voiture et là sur la route, un pneu éclate. Et les deux enfants sont tués sur le coup. Voyez, on n'excuse pas la colère, mais on peut comprendre qu'il y a de la souffrance. Comprenez ? On peut comprendre qu'il y a une douleur profonde. Moi, pendant des années, je n'ai pas compris pourquoi mon père se noyait dans l'alcool. Tout chrétien qu'il était. Ce n'est pas qu'il était alcoolique. Mais le soir, quand il rentrait épuisé, alors il buvait un whisky, puis un deuxième. Ça le détendait. Mais une fois détendu, il était intenable. Et c'est là que les colères explosaient. C'était tellement terrifiant, tellement douloureux, tellement difficile. Et puis, en comprenant cette souffrance plus tard, j'ai commencé à découvrir la manifestation de la souffrance et de la colère. Et je me suis dit, mais on est tous pris par des colères parfois. Comment arriver à trouver une solution ? Alors, j'aimerais simplement terminer maintenant en vous donnant la solution. Comment aujourd'hui nous pouvons guérir de nos souffrances et de nos colères ? Est-ce que vous permettez que je dépasse un petit peu l'heure ce matin ? Si vous voulez, vous pouvez partir. Je ne veux pas vous empêcher, mais je n'ai pas encore fini. Mais j'aimerais vraiment terminer parce que je pense que c'est une notion importante et je n'aimerais pas terminer sans vous donner la solution. Vous voyez, il y a certains qui pensent qu'ils n'ont pas de problème. Et ils pensent qu'ils n'ont pas de problème tout simplement parce que ils mettent en place des processus psychologiques dans leur vie pour, cacher certaines vérités. Par exemple, vous avez certaines personnes qui sont adeptes du transfert. C'est quoi le transfert ? C'est tout simplement la tendance à vider ses émotions sur les autres. Vous voyez ? Je vide mes émotions sur les gens ou je vide les émotions sur les choses qui et l'un et l'autre, ne font pas du tout partie du problème. Et vous avez trois sources généralement de personnes qui sont atteintes par cela. Vous avez d'abord les autres, comme par exemple la famille, le conjoint, les enfants, le chien. Combien de fois il y a des gens qui rentrent, ils sont juste pas bien le soir, celui qui prend c'est le chien. On pourrait dire quand c'est le chien ça va encore, mais parfois c'est l'époux, c'est l'épouse, c'est les enfants. C'est terrible. Il y a les choses, c'est les objets. C'est les portes de placard qui sont cassées, c'est les téléphones qui volent, etc. Vous avez d'autres personnes, c'est envers eux-mêmes qui génèrent leur colère. Regardez le nombre de personnes qui sont atteintes par l'automutilation aujourd'hui. Regardez le nombre de personnes qui désirent juste se suicider. On a en France le taux de suicide entre les 15-25 ans le plus important d'Europe. Dans un pays comme le nôtre, c'est juste pas normal. Regardez le nombre de personnes qui sont atteintes par l'auto-dévalorisation, l'humiliation verbale. Ceux qui sont soit dans la privation de nourriture ou la dépendance à la nourriture. C'est la manifestation d'une certaine forme de colère. Et puis vous en avez d'autres, ils s'en prennent tout simplement à Dieu. Pourquoi ? Ben, tout simplement, ils sont frustrés envers Dieu de ne pas comprendre pourquoi Dieu a permis certaines choses dans leur vie. Qu'est-ce que tu faisais, Dieu ? Pourquoi tu n'étais pas là ? Pourquoi tu ne t'es pas manifesté ? Vous avez d'autres personnes, par exemple, qui ont diverses formes pour manifester leur colère et ça se transforme en dépression. Toute forme d'état dépressif ou des dépendances. Regardez le nombre de gens qui sont dépendants aujourd'hui. Et je ne parle pas simplement de dépendance à la pornographie, de dépendance à toutes sortes de situations. Vous avez des gens qui sont dépendants de la nourriture, vous avez des gens qui sont dépendants du Nutella. Et vous rigolez, mais c'est juste vrai. Vous avez des gens, ils ne s'en passent pas. Vous voyez ? Des dépendances à plein de choses. D'autres encore manifestent une pauvre estime d'eux-mêmes. Ils se rabaissent continuellement. Ils disent qu'ils sont des incapables, etc. Est-ce que on peut juste comprendre ce matin que la manière dont nous nous voyons fera ce que nous sommes ? La manière dont nous nous voyons fera ce que nous sommes, ce que nous allons devenir. Je vous parlais tout à l'heure d'un changement d'identité. Eh bien, un changement d'identité et retrouver son identité en Jésus-Christ, Interpréter différemment les événements de notre vie passée est tout simplement une solution que Dieu commence à nous donner par le Saint-Esprit pour que nous puissions commencer à changer. D'autres génèrent par exemple beaucoup de stress. Le stress est la réaction émotionnelle ou physiologique à des questions externes ou internes, à toutes sortes de demandes. Et les conséquences du stress sont souvent des décisions à l'emporte-pièce, voyez, des décisions irrationnelles, non réfléchies, des retraits de situation, de la relation, et bien entendu des colères, etc. Et puis enfin, très souvent, quand on manifeste sa colère, on est dans ce qu'on appelle la rupture. La rupture, c'est quoi ? C'est la rupture relationnelle qui est souvent la conséquence d'une souffrance et une colère qui est non transformée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que nous évitons les confrontations au lieu de régler le problème. Du coup, on s'éloigne des personnes. Au lieu de régler des situations, on fuit, on contourne, on esquive. Et finalement, on ne règle rien. Et certains partent pendant des années et des années pensant qu'ils ont oublié, mais oublié, c'est pas réglé. Et c'est pour ça qu'on continue toujours à souffrir. Et là, on retrouve les trois sources de tout à l'heure. Dieu. Oui, vous avez des gens qui disent « Dieu, mais pourquoi devrais-je m'impliquer davantage avec Dieu alors qu'il ne répond pas à mes prières ?» Vous avez des gens qui sont dans cette réflexion-là. « Mais je ne vais pas en faire plus. Il ne fait rien pour moi. » Vous avez les autres. On remarquera que quelqu'un qui va plutôt quitter une relation, quitter une église, quitter une situation, quitter un environnement, quitter un travail, parce qu'il ou elle a été blessé, plutôt que de vous engager dans un processus de restauration et de réconciliation. Et puis vous avez soi-même. Certaines personnes ont peur de faire face à leurs propres et à leurs véritables sentiments. Alors elles se cachent dans des relations superficielles, ou elles se cachent dans le travail ou même dans des rôles, voyez. Et certaines personnes qui ont particulièrement souffert dans leur enfance adoptent ce fonctionnement parce que ça prend énormément d'énergie, mais ça donne une autre apparence de soi-même, mais ce n'est pas la vérité. Au final, si nous ne nettoyons pas le placard, si nous ne purifions pas le placard de toutes ces choses, si nous ne prenons pas conscience de ces situations pour les traiter, nous ne serons jamais libres en Jésus-Christ. Mais nous allons juste survivre. Nous ne serons pas, comme l'apôtre Paul nous dit, toujours joyeux, mais nous serons obligés de montrer une façade. Nous ne pourrons pas être même pleinement efficaces pour le Seigneur parce que nous ne serons pas nous-mêmes. Et au final, cette situation nous affaiblit. Bien souvent, elle nous épuise, elle détériore les relations. Elle affaiblit notre couple, affaiblit l'Église. Parce que quand le couple est affaibli, l'Église est affaiblie. Quand une famille est affaiblie, l'Église est affaiblie. Des fois, des gens me disent, on est en train de se séparer, tout ça, mais je vais continuer de travailler à l'Église. Mais tu ne peux pas travailler de la même manière, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu seras forcément affecté dans ton cœur. Règle ton problème. Frères et sœurs, chers amis, ce matin, il est temps, je crois, comme l'aigle, de muer. Et d'aller se briser sur le rocher Christ. Et de briser sur ce rocher tout ce qui est impropre, tout ce qui est discordant, toutes ces scories qui sont là et qui nous font tant souffrir. Nous avons besoin d'un renouvellement puissant. Un des versets les plus puissants de la parole que je connaisse, c'est Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vais vous le lire dans deux versions. Il dit ceci, Paul dit, je vous encourage, vous connaissez ce texte, il dit, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aimerais lire cette version-là dans la version Parole Vivante. Dans la version Parole Vivante, il est dit ceci, je vous demande donc, frères et sœurs, écoutez bien, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée de lui consacrer votre être tout entier, écoutez, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Corps, force, faculté, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Alléluia. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Si on n'offre pas tout à Dieu, ça n'a plus de sens notre culte. Si on est là simplement pour faire apparence, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais si on a tout offert à Christ, ça a de l'apparence. Et il est même dit, ça a un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Changeons notre manière de penser, frères et sœurs. Changeons notre façon de voir l'Église, de penser l'Église. Changeons notre pensée de voir la vie chrétienne. Changeons notre mentalité de voir aujourd'hui notre vie personnelle, notre vie de couple. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Vous remarquez ? Ce n'est pas un miracle qu'on attend ici. C'est une décision personnelle. Les chrétiens, ils attendent trop de miracles. Il y a des choses, ça ne viendra jamais par un miracle. Il est dit ici, adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Comprenez ceci, écoutez bien. Un renouvellement spirituel, un changement de mentalité comme nous parlons ici, n'est pas l'attente d'un miracle. Il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Les problèmes qu'il y a dans votre vie personnelle, les problèmes qu'il y a dans votre vie de couple aujourd'hui, n'attendez pas un miracle pour que ça change. Ce n'est pas le miracle qui va changer les choses. Pourquoi ? Parce que ce qui va commencer à changer la situation, c'est votre décision personnelle. C'est un choix personnel. Et quand vous commencez par prendre une décision en disant « oui, il y a quelque chose qui vient de se passer », alors là, il y a une œuvre de l'esprit qui va commencer à prendre place. Ne pensez pas que vous allez vous lever un matin et que vous allez constater que tout est différent. Votre colère a disparu et vos blessures sont miraculeusement guéries. Non, pourquoi ? Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi il ne fonctionne pas comme ça ? Parce que nous n'avons pas été créés comme cela. Pour Dieu, ce qui est important et ce qui est indispensable, c'est que notre intellect comprenne la situation pour accepter le nettoyage. Et c'est quand nous acceptons le nettoyage que la guérison commence à prendre place. Ça s'appelle une prise de conscience. Et pour bien des gens d'entre nous, on n'a pas simplement besoin de, comment dirais-je, une prise de conscience n'est pas suffisante. Une fois qu'il y a une prise de conscience, il faut s'impliquer dans le processus qui suit la prise de conscience, qui s'appelle un changement. Est-ce que vous me suivez ? C'est à partir de ce moment-là, quand vous avez fait ce choix, que vous avez pris conscience et que vous êtes engagé dans ce processus, c'est à partir de ce moment-là que le miracle de Dieu commence. Alléluia ! C'est à partir simplement de ce moment-là, parce que le Seigneur nous a fait la promesse de nous accompagner dans notre vie, dans les choix que nous faisons. Alors lorsque nous commençons ce nouveau chemin du renouvellement, oui, il sera là, il va nous soutenir, il va nous accompagner, il va nous fortifier, il va nous donner l'énergie et la force. Alléluia. Je termine rapidement avec ces deux points. Comment trouver une solution à sa colère ? Et comment trouver une solution à sa souffrance ? Et comprenez bien une chose, c'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner. Il y a trop de chrétiens qui pensent qu'ils doivent traiter leur souffrance pour ensuite pouvoir être libérés de la colère. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent comme cela, mais c'est un vrai problème. Il me semble que c'est un leurre. Pourquoi ? Tout simplement parce que la colère agit dans notre vie comme un poison. La colère, ça infecte notre cœur. La colère, ça infecte notre mentalité, pardon. La colère, ça infecte notre réflexion personnelle. La colère, ça infecte même nos décisions et ça nous empêche de guérir. Nous devons donc commencer par régler notre problème et ensuite penser à guérir. C'est dans ce sens-là, je crois, qu'il faut générer les choses. Débarrassez-vous de votre colère et vous allez pouvoir commencer à guérir en profondeur. Alors, la colère, elle génère tout un excès, n'est-ce pas, d'énergie. Et c'est cette énergie que vous devez apprendre à canaliser. jeter des objets, exploser des meubles, s'énerver avec sa voiture. Tout ça, ce n'est pas forcément un moyen sain pour générer et se libérer de notre colère. Il y a peut-être d'autres façons. Et une des premières façons pour traiter sa colère, ben, c'est tout simplement de l'admettre. Hello ? L'admettre. Dieu ne peut pas nous aider si on n'admet pas les choses. Il y a un moment donné, il faut qu'on admette que oui, j'ai de la colère dans mon cœur, j'ai de la colère. Peu importe la raison, c'est pas la raison, c'est pas la cause. Ce qui est important, c'est est-ce que tu as de la colère ou pas. S'il y a de la colère, il faut que tu l'admettes. C'est juste la condition sine qua non. Ne niez pas l'existence de la colère dans votre vie. Ne réprimez pas les sentiments de colère en essayant de les oublier. Comme je l'ai dit, oublier, ce n'est pas régler. Ne rationalisez pas votre colère en trouvant des excuses ou en rejetant la faute sur les autres ou sur les situations. Acceptez que vous soyez en colère. Admettez votre colère et traitez-la. Deuxième point, rencontrez la personne ou la situation avec qui vous éprouvez de la colère, si cela est possible, bien entendu. La Bible nous dit, l'apôtre nous dit dans Éphésiens, dites la vérité dans l'amour. Pas vous mettre en colère avec la personne, mais dites la vérité dans l'amour. La Bible dit, c'est afin que ces choses nous fassent grandir en tout point en vue de celui qui est la tête, Christ. Donc nous devons apprendre aussi à partager. Je ne développe pas trop, parce que je le développe dans une autre formation, et ce matin je n'ai pas le temps, mais je vous donne les points principaux pour que vous puissiez y réfléchir. Troisième point, parlez de votre colère avec une personne de confiance. Verbaliser sa colère à quelqu'un de confiance, c'est déjà une étape importante parce que ça va vous permettre de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Une personne de confiance, j'en ai parlé un petit peu hier, c'est une personne fiable. C'est quelqu'un qui, oui, c'est rare, c'est vrai, c'est très rare, mais devenez des personnes fiables. Des personnes fiables, des personnes qui respectent la confidentialité. Des personnes qui sont des bons auditeurs, c'est-à-dire que quand vous partagez quelque chose pendant quelques minutes, ils ne regardent pas le plafond, le ciel ou leur téléphone portable, mais ils sont concentrés avec vous. Et puis, une personne fiable, c'est aussi quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. Quatrièmement, la prière. La prière, c'est un exutoire, et c'est vraiment un exutoire incroyable pour vider notre cœur de colère. Et vous avez déjà plusieurs personnes qui en ont fait l'expérience, comme David. David en a fait maintes fois usage en déversant son cœur rempli de souffrance. Lisez le psaume 140, lisez le psaume 83 par exemple. Et David va même dire des choses incroyables. Il va dire par exemple, « Mon Dieu, fais tourbillonner comme la paille emportée par le vent, comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, poursuis-les dans la tempête, épouvante-les par ton ouragan. » C'est pas sympa comme truc, hein? Il parle de ses ennemis, là. Mais est-ce que Dieu va accomplir tout ça? Certainement pas. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on a besoin simplement d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Si vous dites, c'est vrai, c'est pas toujours facile de trouver une personne de confiance, mais j'en ai une qui est une personne de confiance, c'est Jésus. Vous pouvez tout lui dire à Jésus. Même ce qui est erroné, même ce qui est faux. Parce que la réalité, c'est que David voyait les choses de cette manière-là, mais ce n'est peut-être pas forcément la manière dont Dieu voyait les choses. Mais David, lui, voyait les choses de cette manière-là. Il les a juste exprimées à Dieu. Ça n'a pas d'importance de savoir si c'est juste ou pas juste. L'important, c'est de vider son cœur. Alors au lieu de le dire à une personne parfois pour lui faire du mal, dites-le tout simplement déjà au Seigneur. Et puis, évacuez aussi votre colère par des façons saines, comme par exemple des activités manuelles, des activités physiques. Faites du sport, arrêtez de vous en prendre à votre chien. Mais si faire le ménage, ça évacue votre colère, bah faites-le une deuxième fois, faites-le une troisième fois. Rangez quatre fois votre garage, débarrassez cinq fois la cave, allez couper du bois, allez dans une salle de sport, marchez, dépensez-vous, peu importe. Mais extériorisez cette énergie que la colère procure dans votre vie, au lieu de vous en prendre aux gens que vous aimez et que normalement vous ne devriez pas blesser. Faites quelque chose de pénible. Transformez cette énergie de la colère en source puissante d'action. Et puis, une autre notion, c'est le pardon. Je crois que je n'ai pas le temps de le développer ce matin. Il y a tellement de choses à dire sur le pardon. Mais le pardon, bien entendu, bibliquement bien compris. Quand je dis le pardon bibliquement bien compris, ce n'est pas le pardon où on pardonne tout à tout le monde de n'importe quelle manière. Parce qu'il y a tellement de gens à qui on a dit « faut pardonner ». Mais moi, j'ai pardonné 10 fois, 20 fois, tous les dimanches, ils demandent pardon. Et puis les choses, elles reviennent régulièrement. C'est pas ça le pardon. J'ai pas le temps de développer ça. Je pense qu'il y a des CD là-dessus sur la notion du pardon. Mais une fois que vous avez alors traité votre colère avec ces différents points, alors là, vous allez pouvoir maintenant entamer le processus de la guérison intérieure. Afin que vos blessures puissent, comme vous avez stoppé l'infection de la colère, vous allez maintenant pouvoir vous occuper de vos blessures. J'appelle ça la cuve des émotions. Vous savez, nous sommes tous comme une cuve d'émotions, nous sommes tous émotionnels, même nous les plus russes, ceux qui ne parlons pas, qui disons rien, etc. Nous sommes tous des gens émotionnels. Ça c'est la cuve de notre vie, vous voyez. C'est quoi la cuve de notre vie? C'est qu'il y a toutes sortes d'informations qui entrent dans notre vie, des informations positives, des informations négatives, des expériences de vie qui sont positives, négatives. Et tout cela fait notre personnalité. Quand vous avez une information ensuite de la vie qui rentre là dans votre histoire, quand elle en ressort, elle ressort forcément avec une information et une réinterprétation. C'est pour ça que d'une même situation, vous avez des gens qui voient les choses d'une certaine manière, puis les gens d'une autre manière complètement différente. Pourquoi ? Parce que c'est notre cuve d'interprétation qui fait cela. Or, il y a une troisième interprétation, c'est celle du Saint-Esprit. La manière dont Dieu, lui, voit les choses. Et si vous voulez être restauré et guéri, nous avons besoin d'aller chercher comment Dieu, lui, il a vu les choses. Même les choses de notre passé. Alors très rapidement, je donne 5-6 points pendant que la musique s'installe et qu'on va terminer simplement par un temps rapide de prière, mais simplement quelques points pour traiter les blessures et traiter la souffrance. La première chose, un peu comme la colère, admettez vos blessures, quelle qu'en soit la source. Vous savez, aucun d'entre nous n'est imperméable à la souffrance. Aucun. Nous avons tous vécu des moments difficiles. Deuxièmement, priez pour votre souffrance. Pourquoi ? Parce que Dieu veut et Dieu peut guérir vos douleurs émotionnelles. Parce que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai la paix, le repos, etc. Alors examinez vos sentiments et la manière dont vous avez interprété vos différentes situations avec Dieu. Réfléchissez sur tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et comme le psalmiste dira dans le psaume 25, « Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. » Était-ce la réalité ? Peut-être pas, mais c'était le ressenti du psalmiste. C'était son ressenti. C'était ce qu'il vivait. Commencez tout doucement. C'était ce qu'il ressentait, c'était ce qu'il vivait. C'était ce qu'il exprimait devant Dieu. Alors demandez à Dieu de guérir vos blessures émotionnelles. Demandez-lui. Demandez à Dieu une autre façon d'interpréter ce qui vous est arrivé, ce qui s'est passé. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va parler à votre cœur. Là aussi, troisièmement, parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce que c'est important parfois de verbaliser un pasteur, un conseiller d'aide en relation d'aide chrétienne, et quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous êtes sûr, qui ne vous juge pas et à qui vous allez pouvoir verbaliser tout cela. Si cela est possible aussi, parlez-en avec la personne concernée. N'oubliez pas que vos sentiments blessés peuvent provenir de plusieurs sources. De donner aussi à la personne concernée une chance de s'expliquer, c'est important également. Parce que dans bien des cas, cette personne ne sait même pas qu'elle vous a blessé. Combien on a d'histoires d'église où la sœur untel ou le frère untel dit « Oh, il m'a bousculé dans le hall, il m'a même pas dit bonjour, il m'a marché sur le pied. » Et au lieu d'aller voir la personne et de lui dire « Tiens, il s'est passé ça, etc. » Non, on commence à faire son film. Et puis dès l'après-midi, déjà on prend le téléphone, oh, « Tu sais, le frère untel, la sœur untel, elle a fait ceci, elle a dit cela. » Et là, on est dans le Spielberg, là, on commence à faire des films et on commence à faire toutes sortes de... Mais la Bible, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit pas quand tu as un problème avec quelqu'un, prends ton téléphone et appelle tout le monde. La Bible, elle dit, si tu as un problème avec quelqu'un, va rencontrer la personne. Va discuter avec elle. Et vous savez, dans un gros pourcentage de cas, je parle pas des cas graves ou particuliers, mais dans un gros pourcentage de cas de ces situations, quand vous allez voir la personne, elle va vous dire, ah ben, je me suis même pas rendu compte que je t'avais marché sur le pied, je demande vraiment pardon, excuse-moi. Et c'est fini. Ça pourrait durer simplement 2 heures et c'est terminé. Et parfois, ça dure pendant une semaine, un mois, 2 mois. Quelle tristesse ! Et puis enfin, cinquièmement, là encore, cherchez la guérison de Dieu à chaque occasion, comme ce matin. Parce que toutes nos rencontres sont faites pour chercher la présence de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux pendant quelques instants. Pardon d'avoir débordé un petit peu sur l'horaire, mais Je crois qu'il y a des fois où le Saint-Esprit peut-être veut parler, il y a des choses qu'il faut accomplir. Et pour cela, eh bien, il faut prendre du temps. J'aimerais que vous puissiez prendre du temps pour vous concentrer maintenant. Simplement vous concentrer. Alléluia. Concentrez-vous sur ce que Jésus vous a dit ce matin, sur ce qu'il a commencé à faire. Parce que le Seigneur est celui qui veut guérir les cœurs maintenant. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux parce qu'on n'est pas au théâtre, on n'est pas au spectacle, on n'est pas là pour se regarder les uns les autres. Mais j'aimerais que pendant ce temps et ce moment d'appel, on a un temps particulier, un temps spécial maintenant où il est nécessaire que le Saint-Esprit ait toute la latitude maintenant. J'aimerais vous inviter, vous qui peut-être réalisez ce matin qu'il y a de la colère dans votre cœur, dans votre vie. Et peut-être vous avez nié cette colère pendant longtemps et vous avez rejeté la faute sur les autres, vous avez essayé de trouver des excuses et essayé de trouver toutes sortes de plans pour essayer d'échapper à cette colère, mais vous savez très bien qu'elle revient régulièrement et elle vous saisit à des moments où vous ne l'attendez pas. Et cela cause tellement de dommages et de grabuges. Écoutez bien ce matin, je ne suis pas en train de dire que Dieu veut miraculeusement guérir la colère, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'il souhaite, mon frère, ma sœur, c'est que ce matin, tu réalises qu'il y a de la colère dans ton cœur. Peu importe la cause, peu importe la raison, peu importe la source, il veut que tu réalises qu'il y a de la colère dans ton cœur et que tu prennes la décision maintenant de la traiter. Et j'aimerais simplement vous encourager à faire ce choix ce matin, le choix de prendre la décision de traiter votre colère. Si c'est votre désir, même si c'est peut-être la première fois que vous reconnaissez qu'il peut y avoir de la colère, j'aimerais vous dire qu'à partir du moment où non simplement vous allez faire le choix de reconnaître qu'il y a de la colère et qu'ensuite vous allez vouloir faire le choix d'entrer dans un processus de libération de cette colère, eh bien Dieu va vous accompagner maintenant pour vous libérer de cette colère. Et peut-être que tu n'as pas la force encore ce matin, peut-être que c'est la première fois qu'on te parle de cela de cette manière-là. Mais j'aimerais te dire que ce matin peut être une matinée, là maintenant, de libération, de délivrance. Ça peut être un moment puissant où tu risques de ressortir de ce lieu complètement différent parce que tu as pris la bonne décision. Et Dieu, avec le Saint-Esprit, aura vu cette décision, ce choix. Mon frère, ma sœur, je ne vais pas te faire venir sur le devant, mais je vais simplement te dire, fais un choix. Que devant Dieu, tu puisses prendre un choix, prendre une décision ce matin. Gardons nos yeux fermés pendant quelques instants encore. Et fais ce choix de dire, oui, je reconnais, Seigneur, qu'il y a la colère dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de traiter cette colère maintenant parce qu'elle détruit ma vie, elle détruit mon couple, elle détruit mes relations. Et je m'engage à aller trouver un pasteur, un conseiller, qui que ce soit, pour aller, eh bien, soigner ce problème-là et trouver, par l'aide du Saint-Esprit, des solutions. Si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais prier pour toi maintenant pour que Dieu te donne la force d'aller au bout de ta démarche. Et si c'est ton cas, ben, je ne vais pas vous faire venir sur le devant, mais juste une fraction de seconde. Levez votre main, rebaissez-la, et puis je vais prier pour vous. Oui, 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 aussi au fond. Oui, madame, alléluia, oui aussi. Je te vois, oui, également, alléluia, oui. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. J'aimerais inviter à l'église à prier pour tous nos frères et sœurs, nos amis qui ont levé leur vin ce matin. J'aimerais vraiment vous en... Considérez que dans la vie de ces amis, ces frères, ces sœurs, il y a un vrai combat ce matin. Il y a un vrai combat. Le diable veut les garder dans leur colère. Le diable veut les garder dans ce mensonge. Il y a un vrai combat spirituel, mais Jésus est victorieux. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Laissez le Saint-Esprit, laissez... Exprime-toi devant Dieu, même si tu pleures, tu cries, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre ce matin. Dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour ces amis, ces frères, ces sœurs, qui reconnaissent humblement devant toi qu'ils sont tenus par la colère. Une colère qu'ils souvent ils n'arrivent pas à maîtriser, qui cause toutes sortes de grabuges dans leur vie, qui détériore leur personnalité, ça détériore leurs relations, ça détériore leur couple, ça détériore même la relation avec leurs enfants et leurs amis. Je t'apporte, Seigneur, ces amis qui sont dans la souffrance depuis tant d'années pour certains. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de colère. J'ordonne maintenant à l'ennemi de les lâcher dans le nom de Jésus. Aide ces amis, Seigneur, dans le nom de Jésus. À traiter leur colère maintenant, Amène-les, Seigneur, à faire et à prendre cette décision qui va transformer leur existence. Seigneur, qu'ils ne s'arrêtent pas simplement ce matin à lever la main lors d'un appel, mais qu'ils s'engagent maintenant dans un processus de transformation, un processus de changement dans le nom de Jésus. Qu'ils comprennent que seuls, ils n'y arriveront pas, mais ils vont chercher de l'aide auprès de leur pasteur, qui va les accompagner et qui va les aider à sortir maintenant, à libérer cette colère. Je te prie pour que ces amis puissent trouver un subterfuge, une solution, que ce soit au travers d'une activité physique ou autre, pour libérer ce trop-plein d'énergie, non plus sur ce qu'ils aiment, mais sur des activités ou des choses extérieures. Dans le nom de Jésus, fais ton œuvre, Seigneur, ce matin. Fais ton œuvre. Amène ses amis à entrer dans ce processus de délivrance intérieure. Tous ceux qui sont piégés par l'ennemi au travers de la colère, ce matin, intervient au nom de Jésus. Aide tous ces amis qui ont levé leurs mains ce matin. Aide-les, aide-les, aide-les au nom de Jésus. Aide-les. Alléluia. Accompagne-les dans ce processus. Rends-les victorieux. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Je voudrais finir en faisant ce dernier appel. Maintenant, j'aimerais prier pour vous qui êtes saisis par la souffrance à cause de toutes sortes de choses vécues, comme mon papa qui, plus tard, j'ai bien compris pourquoi il y avait ces colères, pourquoi il y avait ces souffrances, et qui aujourd'hui disent « Oui, j'ai ces souffrances dans mon cœur, j'ai ces douleurs, mais je réclame que le Saint-Esprit vienne guérir maintenant en profondeur mon cœur et ma vie. » Parce que vous prenez ce choix, parce que vous vous engagez avec lui, l'Esprit de Dieu va vous accompagner maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter, mon frère, ma sœur, qui est dans la souffrance, à reconnaître ta souffrance ce matin. À verbaliser tout simplement ta souffrance, à commencer à parler à Jésus. Dépose ta souffrance au pied de la croix. Dépose ta souffrance au pied de Jésus. Dépose les événements qui t'ont meurtri, qui t'ont blessé. Dépose toutes ces choses de ton passé qui t'ont comme écrasé, humilié. Le diable a utilisé ces choses pour te souiller. Mais Jésus a donné sa vie pour te libérer ce matin. Alors saisis la victoire qu'il y a en Jésus-Christ ce matin. Saisis cette victoire. Oh, j'aimerais prier pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, qui a cette souffrance et qui essaye de vivre en essayant de générer cette souffrance, de la traiter d'une manière ou d'une autre, mais tu n'y arrives pas. Le Seigneur est là pour guérir tes blessures émotionnelles ce matin, tes blessures physiques, tout ce que tu as commencé à vivre intérieurement. Alléluia. Si tu es dans ce cas, mon frère, ma sœur, j'aimerais juste t'inviter à lever la main également une seconde. Et puis je vais prier pour toi. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, simplement? Vous levez votre main à votre place. Oui, madame. Oui, aussi, Seigneur te voit. Alléluia.